Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Huitième partie, les deux témoins.
Dernier rendez-vous, nous avions étudié les six premières trompettes. Alors, je voudrais tout simplement repréciser que entre la sixième trompette et la septième trompette, il y a deux chapitres qui s'interposent, c'est-à-dire le chapitre 10 et le chapitre 11. Il s'agit dans ces deux chapitres d'un épisode donc de l'Apocalypse qui s'intitule « Le mystère du petit livre » chapitre 10 et « Le mystère des deux témoins mis à mort » chapitre 11. Alors on a pas mal d'ouvrages à considérer parce que On continue à cheminer dans notre méditation. Et je voulais simplement vous dire en préambule que la grande difficulté de l'Apocalypse, c'est la chronologie. Parce que c'est peut-être la difficulté que nous rencontrons où se situent les événements, puisque ça semble difficile. Alors, je vous demande toute votre attention. Ce soir, on va aborder des sujets qui sont très intéressants, mais par le fait de ces interpositions, entre, par exemple, la sixième trompette et la septième, il y a des choses qui viennent s'entremettre, et quelquefois qui nous font perdre un petit peu la piste de la vision, le plan, en quelque sorte. Alors, on va donc ouvrir le chapitre 10 et je vais y apporter un commentaire tout simple. Dans le verset premier, je le lis, il est dit ceci: « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Nous introduisons ce chapitre où il est question d'un ange, d'un autre ange puissant. Alors c'est vrai qu'a priori, on comprend ce que c'est qu'un ange. La Bible en parle. Mais certains commentateurs, et je voudrais quand même introduire, sans que ce soit une proposition définitive, mais certains y ont reconnu Jésus dans cet autre ange puissant, en tant que messager de Dieu, selon Hébreux, chapitre 1er, verset 14, où il nous est dit que les anges sont des messagers envoyés par Dieu pour amener les hommes à hériter du salut, ce qui a été parfaitement et totalement la personne de Jésus. Dans cet ange puissant, il nous est parlé finalement de cette puissance remarquée, elle est soulignée, il vient du ciel et dont les signes décrits, dans ce que nous avons lu dans ce premier verset, laisse à penser à une éminente autorité, quasi divine. Oui, parce que on sait qu'il y a quand même une différence entre Dieu, entre Jésus et les anges. Alors, dans les caractéristiques qui nous sont présentées, il nous est dit qu'il est enveloppé d'une nuée, qui est la manifestation de la présence et de la majesté divine. On sait que dans le désert, c'était comme ça que Dieu se manifestait. Il nous est dit que sur sa tête, où sa tête était couronnée d'un arc-en-ciel, parce que son message évoque l'alliance de la grâce dans les jugements qui se préparent. Et il ne faut jamais perdre de vue que si le livre de l'Apocalypse est un livre de jugement, eh bien, la grâce est dans les jugements eux-mêmes pour ceux qui se repentent. Je veux dire que comme pour nous aujourd'hui, mais particulièrement marqué par le fait de tous ces événements, de toutes ces choses importantes du livre de de l'Apocalypse, c'est toujours la grâce qui prédomine sur le jugement. Il nous est présenté cet ange par son visage lumineux comme le soleil, qui tout simplement eh bien, est l'emblème que rien ne peut rester caché. Le livre de l'Apocalypse est le livre où tout sera mis en lumière, où tout sera dévoilé. Et à ses pieds, eh bien, ce sont des colonnes de feu, c'est-à-dire prêts à consumer toute opposition à son autorité juste et son autorité sainte. Alors, chacun maintenant déterminera s'il s'agit tout simplement d'un ange puissant quelconque ou s'il s'agit tout simplement eh bien, de Jésus. Maintenant, nous allons passer au verset 2 où il nous est dit ceci. « Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. » L'ange puissant dont il est question vient porteur d'un petit livre mystérieux. Autant dans l'étude que nous avons faite sur le livre scellé par des sceaux, il s'agit d'un livre ouvert, mais qui reste néanmoins eh bien, mystérieux. Nous l'avons signalé, nous l'avons lu, il a un pied droit sur la mer. Celle-ci, et je vous le rappelle, puisque nous l'avions déjà signalé dans nos études précédentes, la mer préfigurant les nations et les peuples toujours en mouvement, comme les flots de la mer, comme la mer qui ne connaît aucun repos parce qu'elle est toujours et constamment agitée, ainsi sont les civilisations humaines qui se succèdent, qui se remplacent, qui se détruisent, qui se reconstituent, qui s'affrontent tour à tour, qui meurent et qui renaissent. Voilà. L'autre pied, c'est-à-dire le pied gauche, est sur la terre, qui symbolise la nation d'Israël. D'ailleurs, la nation d'Israël est souvent présentée comme la terre d'Israël, Eretz Israël. Et vous imaginez un pied d'un côté, l'autre naturellement, un sur les nations, l'autre sur Israël. La terre qui se laisse, qui nous laisse entendre une prise de position absolue d'un côté le monde païen, ou le Seigneur, ou cet ange, comme vous voulez, eh bien là, domine sur le monde païen, et de l'autre, sur les hommes de son alliance, selon l'usage antique, des conquérants qui, hier, marquaient sur leur vainqueur leur domination en mettant leurs pieds sur leur nuque. C'est une image, hein, tout ça c'est du symbole, hein, naturellement. C'est-à-dire que le Seigneur revendique le pouvoir sur tous, car désormais, personne n'échappera. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas de parti pris. Le Seigneur se lève pour juger les hommes, que ce soit d'un côté les nations et que ce soit aussi son peuple. Personne n'échappera à son jugement, tant le monde que finalement eh bien, la nation élue, le peuple d'Israël. Le verset 3 nous dit « Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion, et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. » Un cri comme le rugissement d'un lion nous est-il présenté. Le rugissement d'un lion est terrifiant. Ça, c'est une chose que nous apprenons, que nous savons. Et c'est un éclat, un rugissement, donc, proclamant l'imminence du jugement divin et pour marquer la sonalité de ce qui va survenir à travers les sept tonnerres qui fracassent l'espace. Dieu se prépare. Dieu a mis en marche, finalement, eh bien, son jugement. Et sept, je le rappelle, c'est la perfection du divin juge et de sa sentence qui ne sera pas moins juste. Le verset 4. Quand les sept tonnerres eussent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle, ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Un ordre à Jean, à l'apôtre Jean, est donné d'écouter, mais de ne rien consigner par écrit, car la révélation du mystère doit encore attendre le temps opportun de Dieu, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc il y a un temps qui est mis de côté. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, et il n'y aurait plus de délai. Voilà, les choses sont arrêtées. Le Seigneur élève sa main droite, qui est un gage de vérité, d'authenticité, et il jure au nom du Créateur qu'il n'y aura plus de délai accordé. Autant dans l'histoire des hommes, depuis le début de l'humanité, Dieu a accordé, finalement, des temps de faveur, des temps de grâce, où devant même quelquefois le péché extrême, il nous est même dit que Dieu s'est repenti, que Dieu a laissé du temps, mais là, cette fois-ci, c'est terminé. Ce verset nous montre que nous sommes bien dans l'Apocalypse et que les choses sont irrémédiables, tout simplement. En fait, à la septième trompette, c'est ce que nous verrons, peut-être pas aujourd'hui, mais encore la prochaine fois, les événements annoncés auront leur total accomplissement. Parce que la septième trompette, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier, tout simplement. Nous avons la confirmation au verset 7, je continue. « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, donc septième trompette, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Donc voilà, maintenant, c'est terminé, les choses sont en marche, elles sont en route. Je poursuis. « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Mais la question que nous pouvons nous poser, mais quel est donc ce mystère contenu dans ce petit livre? Et c'est intéressant d'en prendre connaissance, mais voici pour le moins un étrange commandement aux effets contrastés où Jean reçoit l'ordre d'avaler et de dévorer donc le livre. C'est ce que nous lisons ensuite. Et le fait de manger, le fait d'avaler ce petit livre est doux dans sa bouche et amer, c'est-à-dire il est âcre dans son ventre, dans ses entrailles. C'est ce que nous dit la suite. « Et j'allai vers l'ange et il lui dit de me donner le petit livre et il me dit « Prends-le et avale-le, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. » Voilà. Quelle signification donner à tout cela? Parce que quand on lit l'Apocalypse, on se dit « Mais on a du mal à comprendre un peu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu intime l'ordre à Jean de manger finalement cela? Et c'est ça le mystère du petit livre. Alors donc, Jean doit recevoir le contenu et se l'approprier entièrement dans son cœur. C'est une image. Mais il le fait passer par sa bouche et par son ventre. Donc c'est au niveau de son cœur que les choses doivent se faire. Pour nous dire que tout serviteur de Dieu pourra ensuite, après avoir ingéré ce petit livre des mystères, petit livre de la révélation de Dieu, de la volonté de Dieu, ensuite proclamer avec force, avec vérité, eh bien, à la fois les jugements et les grâces de Dieu, ses menaces et ses promesses, et tantôt en éprouver dans son âme, dans son cœur, dans sa vie entière, toute l'amertume et toute la douceur. C'est ça l'Évangile. L'Évangile est à la fois un message d'amertume, un message difficile, un message âcre, mais c'est un message qui est le plus doux de tous, finalement. Et ça, c'est la caractéristique de ceux qui annoncent l'Évangile, particulièrement, nous allons le voir d'ici quelques instants, mais c'est la caractéristique aussi non seulement de ceux qui prêchent, mais c'est la caractéristique de tout chrétien. Et l'expérience que nous en faisons, c'est que annoncer la parole de Dieu, annoncer à la fois les jugements de Dieu, mais aussi ses grâces, c'est quelquefois amer, et c'est aussi une réjouissance terrible pour nous, une réjouissance très forte, c'est plutôt ce que je veux dire, voilà exactement. Mais ce n'est pas la première fois que les choses se produisent, parce que quand on prend le livre du prophète Ézéchiel, regardez, écoutez ce qu'il est dit, parce qu'Ézéchiel avait déjà reçu le mandat, comme Jean, d'une expérience qui était semblable à celle-ci. Dans Ézéchiel, je cite tout simplement la référence, vous pourrez la retrouver, Ézéchiel 3 et verset 1er, « Dieu lui dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, donc ce livre, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ce que nous apprenons après dans la suite de la vie d'Ézéchiel, que c'est aussi devenu très amer. Ouais. Et Jean va recevoir la même chose pour nous montrer que le message de l'évangile qui est le nôtre, qui est celui que de tout temps, depuis que Jésus est venu, c'est à la fois amer et c'est à la fois doux. Il y a sa part de peine et sa part de réjouissance. Il sera dans tes entrailles, je le rappelle, dans ta bouche, aigreur et douceur. C'est ça la caractéristique. C'est l'image de la joie et c'est l'image de la douleur. Être chrétien, être témoin de Jésus-Christ, être évangéliste ou prédicateur, c'est les deux à la fois. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas difficile, et je dirais même à la limite, c'est aussi pour ceux qui l'entendent. Il y a un message de mort qui donne la mort pour revivre. Et avant finalement de revivre, avant de connaître la joie du salut, il y a comme quelque chose qui est amer. Le péché est amer, la dénonciation du péché est amer. Et il n'y a que ceux qui sont humbles, qui peuvent justement comprendre ces choses, pour que tout son effet salvateur, puisse s'accomplir. Donc, je le rappelle, c'est l'image de la joie et l'image de la douleur. Et c'est aussi les perspectives des jugements terrifiants qui vont survenir, et malheurs, finalement, de tous les malheurs qui viendront, et dont les élus auront part eux-mêmes, et ils auront à endurer. Mais par ailleurs, il y aura la délivrance et il y aura le triomphe final du règne de Dieu. Et c'est ça justement aussi le message, la finalité de l'Apocalypse. C'est que avant que le règne de Dieu vienne, il y aura aussi toutes sortes de choses qui seront la caractéristique de l'amertume, de tout ce qui est difficile, de toutes ces souffrances. Mais après, il y aura cette félicité qui viendra. Donc, c'est ça le contenu de ce petit livre, c'est ça le mystère révélé de ce petit livre. Et dans ces temps angoissants de la fin, c'est la gloire et les souffrances des messagers de la dernière heure. Alors c'est vrai que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que les hommes chrétiens, c'est ce que les chrétiens ont vécu depuis les premiers jours des temps apostoliques. Et c'est ce que nous allons vivre, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Permettez-moi de citer une conversation tout à fait actuelle. Lorsque nous voyons les églises se vider, lorsque nous voyons le désintérêt des gens, et voire même parfois des enfants de Dieu, pour venir écouter l'Évangile, ça c'est la douleur, ça c'est la souffrance, c'est ce que nous vivons. Voilà, on est tout à fait dans les temps de la fin, et comme me le rappelait quelqu'un, eh bien, quand Jésus dit, mais lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Alors, on est devant cette souffrance qui s'est peut-être manifestée pendant des siècles à travers les persécutions, à travers toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est l'indifférence. On se moque de tout. Voilà. Mais croyez bien que ça ne restera pas l'indifférence, parce que dans les temps dans lesquels nous allons, ça ne sera pas l'indifférence. On va revenir justement à des persécutions, à toutes sortes de choses. Pour tous ceux qui voudront prendre position, pour tous ceux qui voudront annoncer le message de l'Évangile. Alors, il y aura du doux et de l'amer. Ça, c'est les prémices, c'est le préambule, finalement, de tout ce qui va arriver à travers les coupes qui vont se déverser, parce qu'on n'en est pas encore là. Il faut attendre quelques chapitres, mais après, ça sera vraiment l'exécution, l'accomplissement des choses. J'en viens au verset 11, puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Voilà la tâche ultime à accomplir. Vous savez que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être à notre poste et à notre place. Nous devons rester dans la consécration au Seigneur. Que nous voyons ou que nous ne voyons pas, nous devons être là. C'est le principal. Et c'est ce qui est recommandé à l'apôtre. Il faut que tu prophétises à nouveau. Ne te décourage pas. C'est doux et c'est amer, mais tu continues. Parce qu'il y a encore des peuples, il y a des nations, il y a des rois, il y a un monde encore à convaincre. Mais avant, il faut que nous nous souvenions de cela. Et c'est de la bouche même de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, où il nous est dit cette parole toute simple pour nous encourager, nous, à porter ce petit livre, à ouvrir ce petit livre, à proclamer son contenu, qui ce n'est plus un mystère, puisque nous savons ce qu'il annonce. Écoutez ce que nous dit Jésus, particulièrement soulignant les temps de la fin. Et dans ce qu'on appelle ces messages tout simplement qui précèdent son retour, il dira « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors on sait que depuis le XIXe siècle, il y a eu des grandes croisades de prédication jusqu'aux extrémités de la terre, comme le monde ne l'avait jamais connu auparavant dans les siècles. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, c'est vrai que l'évangile est dispensé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il faut d'abord que cette bonne nouvelle continue. Et avec tout ce que cela comporte. Quand on se souvient de Noé, par exemple, il nous a dit que Noé était un prédicateur de la justice, juste avant l'effondrement et le séisme et le déluge. Prédicateur de la justice. Et il s'est fait moquer de lui. Il a connu l'amertume. Il a connu ce qu'il pouvait y avoir de souffrance et de douleur, de moquerie et tout le reste. Mais il a persévéré. Parce qu'il était convaincu que ce petit livre, que ce message qu'il portait de l'existence de Dieu, d'un Dieu qui sauve, c'était véritablement ce qui réjouissait son cœur. C'était doux pour lui. C'était doux pour lui. Alors, je dis qu'il y a recrudescence des derniers appels au salut dans les temps dans lesquels nous sommes. Et au chapitre 10, c'est l'exhortation qui nous est donnée, recrudescence à appeler les âmes au salut. Et n'oublions jamais que ce petit livre, la parole de Dieu, souligné particulièrement l'Évangile, annonce les mystères du salut. Et ça, c'est bon et c'est doux. Parce que celui que nous annonçons, il a le caractère de la douceur, de l'humilité et de la bonté. Tout simplement. Néanmoins, sa proclamation engendre toujours une persécution amère. On l'a dit sous la forme peut-être de l'indifférence, ou alors peut-être de lutte et de combat, naturellement. Le premier cavalier, nous l'avons vu les fois précédentes, vous souvenez en ce qui concerne l'ouverture du premier sceau, le premier cavalier part en vainqueur, mais il est aussitôt suivi du second, celui de martyr, du martyr, donc la persécution qui va venir. Le premier annonce, le premier part en vainqueur pour vaincre, et tout de suite après, le deuxième sceau qui est ouvert, nous montre la persécution et le martyr. Ceci introduit le chapitre suivant, les deux témoins et leur mission. Parce que nous allons parler justement de ce travail d'évangélisation, à travers ces deux témoins, et c'est surprenant. Quelle idée vous vous faites de ces deux témoins? On va le voir, on va donner l'explication au plus juste de ce que nous enseigne la parole sur le propos. Parce qu'on a inventé beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses. Nous arrivons maintenant au chapitre 11, et nous abordons un nouveau développement où l'apôtre Jean reçoit mandat d'abord de mesurer le temple. Écoutez, on me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent ». Le fait de mesurer indique symboliquement la possession, la protection et la délimitation, c'est-à-dire le temple, ceux qui s'y trouvent, demeure sous la sauvegarde de Dieu. Écoutez bien, parce que il y a deux conceptions autour de ce sujet. Par contre, l'apôtre reçoit l'ordre de ne pas mesurer l'extérieur, c'est-à-dire le parvis. Tous ceux qui sont dans la mesure du temple, et vous l'avez remarqué avec moi, il nous est dit l'autel et ceux qui adorent. Le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Le verset 2 nous donne un autre développement. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. La ville sainte, vous savez comment elle s'appelle, naturellement. C'est Jérusalem. Dans l'esprit, les choses sont présentées ainsi. Il nous est dit que l'extérieur est abandonné aux nations. C'est une histoire qui nous touche particulièrement, parce que on connaît, c'est notre monde contemporain, en quelque sorte. Abandonnée aux nations, la Jérusalem, cette ville sainte, sera, nous pouvons dire, piétinée par des peuples qui se coaliseront au fil du temps, entendez par là, au fil des siècles, pour l'envahir, pour l'investir. Ils vont la fouler aux pieds. Alors, on l'a déjà dit, depuis que le royaume d'Israël, les royaumes d'Israël ont été anéantis, il y a eu, je le rappelle pour mémoire, il y a eu Babylone, il y a eu les Perses et les Mèdes, il y a eu Alexandre le Grand, donc le royaume de Grèce, il y a eu les Romains, ensuite il y a eu les Mamelouks, il y a eu les Turcs musulmans, et jusqu'en 1948, eh bien, les nations européennes, entre autres avec le mandat anglais, d'investir la Palestine et entre autres Jérusalem. Donc ça, c'est le temps des nations. Ils l'ont foulé aux pieds. Jérusalem, c'est la ville de Dieu, la ville sainte. D'où terrible tribulation pour Israël, et on en connaît finalement les souffrances à travers tous les siècles, mais les fidèles, je dis bien les fidèles, les hommes qui ont un cœur qui appartient à Dieu, ceux qui croient, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont réellement convertis, mais les fidèles, le temple, l'autel et les adorateurs seront épargnés. Ça, c'est réconfortant, hein. Ils seront épargnés parce qu'ils ont été mesurés et ils ont été protégés. En sachant que quand le cordeau mesure, eh bien, c'est une délimitation. Vous ne toucherez pas à mes oints. C'est pour ça que c'est rassurant pour l'Église, parce que le Seigneur a, autant sur Israël que pour l'Église, ben, les vrais Israélites, hein, convertis, mais ils sont protégés. Et il nous est dit que pendant 42 mois, alors là, on va rentrer un petit peu dans les nombres, c'est pas facile. 42 mois. Jésus évoque cette calamité dans l'expression « temps des nations ». Luc nous en parle dans le chapitre 21-24, versets 21-24, où on peut retrouver peut-être le texte simplement. Hein, je ne l'ai pas sélectionné, mais il ne doit pas être difficile, parce que les choses sont dites. Hein, je ne m'en tiens que à ce que, tout simplement, la parole nous enseigne. Puisque ce n'est pas la peine d'aller chercher des livres ailleurs, je crois que la Bible se répond par elle-même. 21-24, il nous est dit simplement ceci, je vais le retrouver tout de suite. Voilà, il nous est dit là dans ce passage, alors, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Alors on sait qu'il y a eu un terme, hein. Et ça fait partie de notre temps, de notre histoire contemporaine naturellement. 42 mois égale à 3 ans et demi. Suivez bien. Un temps, nous dit la Bible, un temps des temps et la moitié d'un temps, selon Daniel, chapitre 7, verset 25. Ce sont des nombres symboliques, mais qui ont quand même une raison d'être. 3 ans et demi, c'est la moitié de 7. On va faire un peu de calcul ce soir, qui embrasse la période du temps des nations, le temps des nations qui s'étend de la ruine de Jérusalem au retour en gloire de Jésus-Christ. Alors c'est toute notre histoire ça, je dis bien la ruine de Jérusalem au retour en gloire de Jésus. Certains commentateurs parleront de l'ascension de Jésus jusqu'au retour en gloire de Jésus. Alors je ne veux pas déterminer les choses. C'est notre temps, c'est celui pour l'Église du témoignage et de l'épreuve. C'est notre temps. Et le Seigneur nous a donné mandat, a donné mandat. Autant Israël avait mandat dans l'Ancien Testament d'être la lumière, d'être les témoignages de Dieu dans son temps et dans son monde, autant maintenant, depuis que, finalement, eh bien, nous sommes dans les temps évangéliques, autant nous avons ce mandat d'apporter le témoignage et de prêcher l'Évangile. Ça correspond finalement à ce chapitre précédent où il était question du petit livre, hein, qui est ouvert et dont nous devons révéler le mystère pour le salut des âmes. Exact, parce que la suite est une mission de témoignage à en juger par les versets 3 et 4 que je lis maintenant. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 2000 ». Pendant 1260 jours, ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça va? Vous suivez? Ça va se compliquer. Hein. Mandat, mission et pouvoir de prophétiser, c'est prêcher la repentance. C'est de dire et d'annoncer à l'avance, d'annoncer aux hommes la pensée de Dieu. C'est un appel à la conversion, c'est annoncer donc cette pensée, cette volonté de Dieu, sa grâce en prévision des événements futurs de jugement qui vont venir, et cela pendant un temps déterminé, pendant 1260 jours. C'est la tâche missionnaire de l'Église qui équivaut à 42 mois, je continue avec les chiffres, 42 mois multipliés par 30, vous avez intérêt de prendre le CD pour réécouter ça et revérifier. Hein. 42 mois multipliés par 30 égale 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ça sera des temps d'affliction où l'Évangile est annoncé, revêtu de sac, qui donne la caractéristique que l'Église, elle n'est pas là pour régner, elle n'est pas là pour se glorifier, mais elle est là pour servir dans l'humilité. En étant tout imprégné de cette compassion de Dieu pour ceux qui se perdent, dans l'humiliation et dans la consécration qui fait que, quelque part, nous prenons fait et cause de cette douleur de Dieu de voir l'humanité perdue. Revêtue de sac, qui est l'image, symbole des douleurs et du renoncement pour tous les témoins et les serviteurs de Christ et pour tout ce que nous sommes les uns et les autres. Nous ne sommes pas dans une conception d'une Église évangélique soit-elle, qui se glorifie de ses richesses avec des palais, avec toutes sortes de choses, c'est pas ça. Comme Christ, son maître, a été humble et modeste, eh bien l'Église doit être aussi simple, modeste, avec les moyens bien sûr de notre temps, c'est certain. Mais il n'est pas question de cet affront d'argent, de faire de l'argent et de toutes sortes de choses qui choquent la conscience des gens aujourd'hui. L'Évangile ne se monnaie pas. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, eh bien donnez gratuitement. Voilà. Mais qui sont ces deux témoins? C'est intéressant. Ils nous sont présentés sous la forme de deux oliviers et de deux chandeliers. Vous allez voir, on va aller de découverte en découverte parce que c'est très intéressant. C'est toujours le problème symbolique qui nous trouble, hein, la chronologie et puis le symbolisme. Dans Zacharie, nous avons cette même pensée. Alors, Zacharie, le prophète, au chapitre 4 et au verset 3, il est dit ceci. Chapitre 4, verset 3. Je regarde, je prie un peu plus loin, hein, verset 2. Et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, portant sept lampes, avec sept conduits, avec des lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc, il est question d'un chandelier. Au verset 14, il me dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont des références bibliques hein, que je suis en train de citer. Peut-on y voir, alors écoutez bien maintenant, peut-on y voir Moïse et Élie? Alors, je vais vous dire pourquoi, je vais vous donner l'explication. Peut-on y voir Moïse et Élie, ces grands hommes de l'histoire biblique, de l'histoire d'Israël, représentant l'un, la loi, Moïse, l'autre, la prophétie, donc le prophétisme. Doit-on s'attendre à leur réapparition comme précurseur et annonciateur du retour de Christ, et cela pour quelques raisons éminemment bibliques? Alors je vais aller un peu plus loin. La disparition énigmatique de Moïse sur le mont Nebo, si ma mémoire est fidèle, sans sépulture identifiée, et l'enlèvement d'Élie au ciel, ce sont quand même des faits qui sont tout à fait particuliers. On n'a jamais retrouvé le corps de Moïse, et Élie est monté au ciel dans un char de feu. L'un représente la loi, l'autre représente la prophétie. Alors, je vais encore un peu plus loin pour éclairer les choses. Les miracles accomplis par ces deux témoins, s'il s'agit de Moïse, on se souvient des plaies d'Égypte et puis tout le reste, hein, pendant 40 ans dans le désert, ou encore les miracles d'Élie, hein, qui sont des miracles finalement patents, c'est quelque chose que nous retrouvons dans le verset 6 de notre texte. Ils ont pouvoir de fermer le ciel, vous vous souvenez de Moïse et vous souvenez d'Élie, la pluie, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, ça vous rappelle Moïse, hein, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, Moïse, chaque fois qu'ils le voudront. Donc, on est quand même dans la réflexion à nous rapprocher de faits qui ont déjà existé dans ces grands hommes qui sont des monuments symboliques, finalement, de l'œuvre de Dieu déjà bien longtemps dans l'histoire. Et souvenez-vous également, si on veut prolonger les choses, à la transfiguration, nous sommes maintenant dans l'Évangile, à la transfiguration de Jésus sur la haute montagne, nous voyons que les deux disciples, ou les disciples qui étaient avec Jésus, ont vu, avec le Maître, eh bien ils ont vu Moïse et Élie. Et ils discutaient de quoi ? Ils discutaient des choses que nous sommes en train de parler ce soir. C'est curieux, ça reste voilé, ça reste quelque part encore très énigmatique tout ça, mais on avance. Oui, parce que ce n'est pas le fait du hasard qu'on n'ait jamais retrouvé Moïse, son corps, que Élie soit monté au ciel dans un char de feu, qu'on le retrouve tous les deux en train de discuter avec Jésus dans la transfiguration, en train de s'entretenir des choses qui allaient arriver. Voilà. Ils sont appelés les deux oliviers et les deux chandeliers. Pourquoi ? Car leur témoignage est inspiré par le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre pourquoi je parle du Saint-Esprit maintenant. Comprenant cette unité d'action, l'olivier produit de l'huile, laquelle est utilisée dans le chandelier pour éclairer. Dès lors, on saisit dans ces deux personnages les représentants typifiés de la loi et de la grâce, la prédication judéo-chrétienne, l'Ancien Testament allié au Nouveau Testament. Israël l'olivier, symbole, Moïse et Élie, et son prolongement chrétien, évangélique, sous l'emblème du chandelier, selon Apocalypse, que nous avons déjà vu ensemble, chapitre 1, verset 20. Ça va ? Je ne parle pas trop vite parce que c'est pas facile pour moi non plus. Hein. Je tiens à vous le dire. Mais j'essaie de concentrer parce qu'autrement, on pourrait faire un verset pour la soirée. Hein. Ouais, Apocalypse 1, verset 20. En partant du principe qu'il y a une unité d'action, l'huile de l'olivier est la lampe pour éclairer le monde. Israël, l'olivier et son huile. La parole de Dieu, la loi et tout ce que vous voudrez. Et puis, la lampe. Jésus nous a-t-il pas dit que nous étions la lumière du monde, nous étions la lampe mise sur la montagne pour éclairer le monde. L'un et l'autre. Si vous avez à retenir quelque chose ce soir, c'est qu'Israël et l'Église aujourd'hui ne font qu'un. Il n'y a pas de séparation. Ouais. Et c'est ça justement ce que nous allons voir dans les prolongements. Dans la continuité d'études, je dis qu'Israël et l'Église d'Israël d'hier, l'Israël d'aujourd'hui, Israël que nous attendons à se convertir, à se retourner vers le Seigneur, nous en dirons deux mots tout à l'heure. Et puis l'Église comme elle est, l'Église la vraie, pas l'Église apostate. Ils ne font un, finalement, devant Dieu. Ouais. Il y a d'un côté l'Ancien Testament, Moïse et Élie, puis de l'autre côté, ce prolongement, ce qui a été enfanté par, finalement, eh bien, tout ce travail d'Israël en donnant naissance à l'Église, que les Juifs d'aujourd'hui n'ont toujours pas reconnu. Hein. Mais néanmoins, c'est quand même une réalité. Et c'est pour ça que Jésus nous dira cette parole extraordinaire et formidable dont nous n'avons jamais, il ne faut jamais oublier, le salut vient des Juifs. Tout simplement. Verset 5. Je reviens au verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, en parlant des deux témoins, du feu sort de leur bouche et ils dévorent leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hostilité des ennemis, mais quiconque s'attache aux témoins, tant Israël qu'à l'Église, et s'obstine à vouloir entraver leur témoignage, en portera la peine de mort. C'est Dieu qui va trancher. On ne touche pas. Celui, dit Dieu, celui qui vous touche, touche la prunelle de mes yeux. Et c'est une réalité, ça. Verset 7 maintenant. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Guerre, vaincu et tué. Les trois verbes, enfin les trois mots qui sont proposés. Seulement, nous est-il dit dans notre texte, lorsque leur mission sera totalement terminée, aussi le meurtre de ces deux témoins fera la preuve du refus et de l'endurcissement des hommes à se repentir, même devant l'appel solennel des témoins et confirmé par les prodiges en question. Dieu pourra faire des miracles à travers Israël ou à travers l'Église dans les derniers temps, même devant ces miracles, les gens diront, nous ne voulons pas nous tourner vers le Seigneur, nous ne voulons pas accepter, eh bien, qu'il devienne notre Sauveur. L'endurcissement. Quelquefois, on aurait tendance à dire, Seigneur, envoie des miracles pour que les gens soient convaincus. Eh bien, dans les derniers temps, Dieu fera des miracles. Moi, j'en suis sûr, il va y avoir un retour du miracle divin. Il y aura certainement des miracles diaboliques. Ça nous est dit dans le Thessalonicien. Mais il y aura un retour, et même devant ces miracles-là, les gens ne baisseront pas la garde. Ils diront, nous voulons encore eh bien, avoir raison, parce que nous sommes eh bien là, nous sommes et nous voulons rester comme nous sommes, tout simplement. Qu'est-ce que cette bête, puisqu'il est question de la bête ? C'est le monde opposé au christianisme rédempteur, inspiré par l'enfer. Il nous est dit qu'elle monte de l'abîme. Elle monte de l'abîme et livre sa dernière guerre à l'Église, à Israël et à l'Église. Il arrivera un temps où même le témoignage missionnaire de l'Église sera comme anéanti, réduit au silence, combattu par l'athéisme le plus cruel. Alors quelquefois on s'étonne, on dit, mais Seigneur, pourquoi il y a une déperdition de l'Église dans notre monde ? Pourquoi l'Église n'a plus la même force ? Mais vous avez la réponse ce soir. Je ne veux pas dire que Dieu n'est pas capable encore de faire des miracles et formidables et encore envoyer des réveils sur la terre. Mais je peux vous dire que, même avec ça, l'Église est en train de diminuer de plus en plus. Ah, nous la voulons glorieuse, cette Église, mais attendez, elle va devenir glorieuse. Mais là, nous allons vers la régression, mes frères et sœurs. Nous allons vers une diminution de l'influence et du pouvoir et des capacités de l'Église. Et c'est voulu, puisque nous aurons la guerre. Ils feront, on le verra un peu plus tard, il nous est dit qu'ils ont fait la guerre aux saints. Que dans notre texte, nous avons souligné également que nous serons vaincus, que l'Église sera vaincue, en apparence, et qu'il y aura comme une mise à mort. C'est écrit dans notre texte. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Alors on se dit, mais Seigneur, où est l'Église dans cette affaire ? L'Église que nous avons connue, l'Église des premiers temps, l'Église des temps apostoliques, l'Église encore même peut-être d'il y a encore quelques décennies. Eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une régression. Et c'est permis par le Seigneur. Parce que ça fait partie du plan de Dieu, tout ça. Mais une chose, en ce qui concerne, et je fais une parenthèse, en ce qui nous concerne, il faut tenir bon, hein, mes frères et sœurs. On sera peut-être plus beaucoup, et c'est peut-être justement là où on expliquera cette parole. Quand Jésus dit, mais trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai sur la terre ? Alors, gardons la foi, hein. Et ne nous laissons pas décontenancer parce que finalement, eh bien, l'Église est mal. L'Église est anémique, est asthénique, et les rangs sont clairsemés. Alors, ça c'est l'œuvre de la bête. Il arrivera un temps où même, je dis bien, le témoignage de missionnaires de l'Église sera comme anéanti. On se dira... Parce qu'il y aura des lois, on ne pourra même plus rendre témoignage, on ne pourra même plus faire ceci et cela. Et on y va, hein. Croyez bien, ça se restreint de plus en plus, hein. Avec interdiction, sous le sacro-saint respect de la religion de chacun. Pas de prosélytisme, et vous ne parlez pas de ce que vous croyez, chacun sa propre conscience. On y va, ça c'est clair. Le corps de Christ sera comme mort. Dans cette période, et je crois qu'on sent déjà un peu les choses. Verset 8 maintenant. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et l'Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. L'Église gisante, l'Église impuissante, l'Église sans vie, elle n'existe plus en tant qu'influence pour le salut. On nous interdira même, peut-être à un moment donné, d'avoir des salles, d'avoir des lieux de culte. Et par toutes sortes de restrictions financières, parce que ça commencera par des restrictions économiques et financières, avec des inquisitions, avec toutes sortes de choses. Ce ne sera peut-être pas un combat à l'épée, mais ça sera tout simplement anéantir les associations cultuelles. Alors, le monde est heureux, et le monde sera heureux, car la parole de Dieu ne tourmentera plus le monde à ce moment-là. Parce qu'il y a une chose qui gêne, les hommes de notre temps, c'est quand nous prêchons l'Évangile, quand nous parlons de se repentir, quand nous parlons de naître de nouveau et de se convertir à Jésus-Christ. Ça enquiquine les gens. Croyez bien, c'est pour ça qu'ils ne viennent plus, ils se bouchent les oreilles en disant « on n'a pas besoin de ça ». Eh bien, Dieu permettra qu'il y ait un temps de silence. Voilà, tout simplement. Et le monde sera heureux, parce que le monde est un monde impie. Et il sera tellement heureux que le descriptif nous est donné au verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns et les autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre par leur message. Et le diable arrivera presque à ses fins à faire taire la voix de l'évangile. Mais elle ne se taira pas, parce que vous allez voir la suite. Et les gens diront, ça y est, c'est très bien. Vous savez, le diable, son travail a toujours été de tuer la voix de Dieu à travers ses messagers. Ou alors, ça a été de trafiquer par des fausses doctrines, ou de dénaturer. Ça a toujours été ça. Soit tuer pour faire taire, ou alors de mélanger et de mettre tout ça dans un syncrétisme qui ne veut plus rien dire naturellement. Au verset 10, donc, il nous est parlé de la dépouille mortelle des deux témoins est exposée à la face du monde. Sur la place de la grande ville, appelée ici Sodome, synonyme de corruption la plus abjecte, et l'Égypte personnifiant la résistance acharnée à Dieu, comme l'a été Pharaon, au plan de Dieu. Il n'y a aucun doute à avoir sur le lieu, là où le Seigneur a été crucifié, ça veut bien dire Jérusalem. Qu'est-ce qu'est Jérusalem aujourd'hui? C'est une ville comme une autre. C'est une ville d'idolâtrie, Jérusalem, d'aujourd'hui. C'est une ville où tout y est. Tout y est. Il s'agit de Jérusalem, celle dont les habitants, écoutez bien, sont autant incrédules que païens, même s'ils se réclament d'être chrétiens pour certains, même s'ils se réclament d'être croyants pour d'autres, même s'ils se réclament d'être véritablement israélites. Intégrés, c'est tout ce que voudraient. Ils sont mélangés. Parce qu'elle aura été donnée aux nations qui vont la fouler. Et les nations vont apporter finalement avec eux tout leur paganisme, toutes les choses impures. Alors, quelle dégradation stupéfiante de l'état moral et spirituel de l'humanité qui exulte à la mort de ces deux prophètes de malheur, parce qu'on considère les deux témoins, Israël et puis également l'Église, comme des prophètes de malheur. Et c'est vrai que l'apôtre Paul le dit. Nous annonçons un message de mort pour ceux qui vont mourir, mais un message de vie pour ceux qui saisissent la vie. Alors, tout le monde va s'envoyer des cadeaux en disant « c'est terminé ». Terminé, l'Église n'existe plus. C'est le point de non-retour de la conscience cautérisée par les mauvais esprits ou par les esprits impurs. Je finis. Verset 11. « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Soudainement, par un acte divin inouï, les deux témoins reviennent à la vie. C'est une résurrection. Ce qui provoque la stupéfaction par l'effroi des hommes suivis d'une ascension au ciel de ces deux témoins au su au vu de tous. Les gens, à un moment donné, il va se produire quelque chose et ils font dire « mais comment ça se fait ?» On y reviendra dans le chapitre 13 où il nous parlait de la bête qui monte de la terre ou de la mer, je ne sais plus laquelle, qui tue et qui à un moment donné, eh bien, celui qui a été tué va ressusciter. Et vous savez, ça c'est le principe de Dieu, hein, et les hommes ne peuvent pas le comprendre. C'est que quand on met à mort, on vit. Quand on donne la mort, quand on veut la destruction, eh bien il y a une renaissance. C'est ce qui se passe déjà pour Israël, hein, mais en tant que nation. On a voulu détruire Israël et rayer le nom d'Israël de la surface de la terre, ne serait-ce qu'avec la Shoah. Eh bien, je peux vous dire que là, ce n'est pas réussi. Hein, parce que finalement, Israël n'a jamais autant eu de vie nationale que maintenant. Et de se reconstituer en nation et en peuple. Dans Ézéchiel, il y a cette belle parole que je cite simplement au passage, parce que je pense que on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Chapitre 37, verset 10, écoutez bien, il est dit « Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, comme dans notre texte d'Apocalypse. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Eh oui, là où le diable ou les esprits impurs ont voulu, les esprits de ténèbres ont voulu détruire, eh bien Dieu donne la vie. Et ça va être une stupéfaction, ça va être quelque chose, un véritable effroi pour le monde. L'Église restaurée retrouve et retrouvera dans les derniers temps sa vigueur, sa puissance et son influence. Et ça sera, écoutez bien, c'est le problème de la chronologie, ça sera le retour de Jésus-Christ et l'avènement de l'Église dans les cieux. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'écoutez bien la suite, au verset 12, vous allez voir la preuve que c'est l'enlèvement de l'Église. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Monte ici. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Montez ici, ils montèrent au ciel dans la nuée, et les ennemis les virent. Vous savez que ça va être quelque chose, hein, quand l'Église va être enlevée. Hein. Quand Jésus va venir et que l'Église va être enlevée, ça va être quelque chose pour le monde. Ça va leur poser des drôles de questions. Hein. Il nous a dit qu'ils verront. Hein. Et eux, ils resteront. Mais nous serons enlevés. Pour une autre destination, naturellement. Verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent très effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ça, ce sont les phénomènes liés au retour de Jésus-Christ et à l'enlèvement de l'Église, phénomènes et ses conséquences. Il y aura un jugement qui sera néanmoins atténué pour la grande ville, c'est-à-dire Jérusalem, à comparer au châtiment du monde païen dont il nous est parlé au chapitre 9 et au verset 18. Nous avons déjà vu les choses. Il nous est dit qu'un tiers des hommes mourront à ce moment-là. Mais là, ça sera atténué puisqu'il nous dit qu'il n'y aura que 7000 hommes qui disparaîtront. Si le monde refuse de se convertir, les habitants de Jérusalem, les Juifs, entendez, hein, c'est symbolique, hein, naturellement, les Juifs, vont donner gloire à Dieu parce que la grande espérance de l'Église, nous, pour nous les chrétiens, c'est pour qu'Israël se tourne enfin vers leur Messie, naturellement. Et il nous est dit qu'un reste seulement se convertit selon Ésaïe, au chapitre 10 et au verset 20. Et nous l'avons dans ce passage, chapitre 10, verset 20, simplement soulignant qu'il n'y aura qu'un reste. En ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. C'est bien la prière de Paul que nous entendons encore lorsqu'il la formule dans Romains. Et quand il nous est dit ceci, par deux fois, au chapitre 9, il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne moins point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin perpétuel, car je voudrais être moi-même rejeté pour que mes frères, les Juifs, mes compatriotes, mes concitoyens, puissent être sauvés. » Et on tourne encore un chapitre, on arrive à l'autre chapitre. Il dit ceci « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle, mais un zèle sans intelligence. » Et puis vous lisez la suite du chapitre. C'est ça la réalisation. C'est qu'à un moment donné, quand tous les païens seront rentrés, quand le plein sera fait du monde qui sera converti dans le monde des païens et qui se deviendront chrétiens, tous ceux qui auront répondu à l'appel, hein, il y a beaucoup d'appelés mais il y a peu d'élus. Non pas parce que Dieu fait la sélection, mais c'est nous qui nous sélectionnons nous-mêmes d'être perdus ou d'être sauvés. Et à ce moment-là, eh bien, c'est Israël qui rentrera et qui reconnaîtra celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont mis en croix, selon Zacharie, le prophète. Alors, nous verrons que le reste des hommes s'endurciront de terreur. De terreur. Et je termine avec le verset 14. Le second malheur est passé. Ça, c'était le second. Hein. Voici le troisième malheur vient bientôt. Et le troisième malheur, eh bien, je vous le dis. Hein. Le troisième malheur correspond à la septième trompette. Hein. Ça sera le jugement dernier. Le premier malheur, c'était la cinquième trompette. Notez bien, vous pourrez retrouver, je ne vais pas le lire maintenant. Et le deuxième malheur, c'était la sixième trompette, celui que nous avons vu aujourd'hui, entre autres. Entre la sixième et la septième, ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors que Dieu nous aide. J'ai été obligé de parler très vite, hein, parce que nous en avons certainement encore jusqu'en 2050, si je prends les versets les uns après les autres. Mais je suis obligé d'expliquer quand même assez, faire un survol. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple. Mais néanmoins, il y a quand même une constance, et je voudrais rappeler une chose, et vous m'avez vu faire ce soir, c'est que je n'ai voulu répondre aux questions, ou peut-être aux questions difficiles, que par la parole de Dieu. Je n'ai pas voulu chercher autre part, parce que la parole se répond elle-même. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, nous allons simplement terminer ce moment, et que nous essayons vraiment que Dieu nous enseigne pour que nous comprenions ce qui va arriver, parce que nous sommes dans tout cela, eh bien, en préparation, et nous sommes aussi des témoins privilégiés d'un temps particulier, qui est le nôtre. Alors nous allons simplement nous recueillir quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que tu as bien voulu ouvrir le petit livre pour nous ce soir, qui révèle qu'il y a des mystères, mais des mystères, Seigneur, qui nous montrent encore une fois de plus que l'Évangile, c'est un message doux et c'est un message amer. C'est vrai pour celui qui le porte, pour celui qui, en effet, tel que l'Église, eh bien là, est annonciateur, en effet, Seigneur, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, mais toujours avec la grâce pour sauver les hommes. Et puis, tu as bien voulu nous rappeler, Seigneur, qu'il y a ces deux témoins qui sont là, Seigneur, qui sont là autour de nous, et c'est vrai qu'il y a l'ancien Israël, à travers ces deux hommes qui sont véritablement des symboles, l'un de la loi, l'autre du prophétisme, et avec son prolongement dans cette dimension de l'Esprit, c'est-à-dire l'Évangile, Jésus-Christ, également, Seigneur, qui a donné naissance à travers un message qui s'appelle l'Évangile, eh bien, au royaume de Dieu, c'est-à-dire à l'Église, le corps de Christ. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de séparation entre tout cela. Et nous voulons te dire que nous te remercions de nous avoir expliqué la signification de ces deux témoins, qui à un moment donné seront combattus à tel point qu'ils vont remplir leur mission, ils seront combattus, ils seront même mis à mort. Mais, Seigneur, c'est sans compter que tu as le pouvoir de ressusciter. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Alors, rassure-nous, encourage-nous à tenir notre place et à ne pas nous désespérer, Seigneur, des temps qui sont les nôtres, des temps que nous vivons, qui sont des temps difficiles, mais nous attendons, en effet, Seigneur, ton retour, et nous voulons te demander et te dire, Seigneur, tout simplement, eh bien, Maranatha, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Amen.